Il a dit, vous savez, c'est un peu comme un braconnier qui part à la chasse. Il prend ses outils et il ne sait pas si le soir, il ramènera un faisan ou un lapin.
Michel Fourniret, celui que la presse a surnommé l'ogre des Ardennes, aimait partir à la chasse, comme il disait. La chasse aux jeunes filles vierges. Monique Olivier, son épouse, a tout de suite adhéré à son projet macabre. C'est elle qui, par sa présence rassurante, rabattait et préparait les victimes que son mari violait et étranglait.
C'est elle qui lui a permis de faire autant de victimes et aussi parfaitement.
La plus jeune avait 12 ans, la plus âgée 21 ans. Il y a eu 7 victimes, mais les époux Fourniret en ont peut-être fait bien plus.
On pourrait avoir un nombre important de victimes, une vingtaine, peut-être plus.
L'enquête sur le couple Fourniret ne cesse de rebondir, comme une histoire sans fin. Avec Imen Gouali, nous avons décidé de retrouver les protagonistes de cette affaire et d'analyser avec eux les conséquences et les répercussions de ce dossier hors norme.
France Inter. 28 ans après les faits, Michel Fourniret avoue 2 nouveaux meurtres. Michel Fourniret est déjà en prison à perpétuité pour 7 autres meurtres.
Tout commence le 16 mai 2000 à Charleville-Mézières. Ce jour-là, Céline Saison, une jeune fille de 18 ans, disparaît à la sortie de son lycée.
On a décidé d'aller au commissariat central de Charleville-Mézières vers 22h. Il nous a été répondu, mais vous savez, elle est majeure, donc elle a le droit de partir.
2 mois et demi après sa disparition, le corps de Céline est retrouvé dans un bois en Belgique. À quelques kilomètres de Charleville-Mézières. Un an plus tard, toujours dans les Ardennes, cette fois-ci à Sedan. C'est Mananya Tumpong, une fillette de 13 ans, qui elle aussi disparaît, après avoir passé l'après-midi à la médiathèque.
Elle y fait ses devoirs, en sort vers 17h, et puis plus rien, comme volatilisée, dit sa mère.
Moi, j'ai très très peur maintenant, j'ai mal, je ne vis plus, qu'est-ce que je peux dire maintenant? Pour moi, j'espère pour lui qu'il va trouver quelque chose pour que je puisse trouver ma fille. Quoi.
La disparition de la petite Mananya est prise très au sérieux par les enquêteurs.
En mars 2002, un promeneur découvre un crâne dans une forêt de Belgique. Après analyse, il est identifié. C'est celui de Mananya. Les mois passent et les enquêtes sur les meurtres de Céline et Mananya sont dans l'impasse. Fin juin 2003, un homme est arrêté en Belgique.
Bonsoir à tous. En était-il à son premier enlèvement ou a-t-il déjà sévi par le passé? Et si oui, que sont devenues ses victimes? Voilà les questions que se posent les enquêteurs après l'arrestation d'un homme qui a tenté d'enlever une jeune fille de 13 ans jeudi dernier.
La jeune fille s'appelle Marie. Elle raconte qu'elle a été enlevée par un homme au volant d'une fourgonnette blanche.
Il m'a attaché les mains et les pieds et tout le corps derrière avec la camionnette. Et j'ai commencé à prier là et j'ai réussi à enlever les liens.
Marie parvient miraculeusement à s'enfuir avant d'être recueillie par une automobiliste.
Elle roule vers le bureau de police et par hasard, elle croise la camionnette de l'auteur des faits. La petite reconnaît la camionnette et la dame qui conduit a le réflexe de relever le numéro de plaque en croisant la camionnette.
Cette fourgonnette appartient à une femme, Monique Olivier, l'épouse d'un certain Michel Fourniret. Une perquisition est immédiatement effectuée au domicile du couple et leur camionnette passée au peigne fin. Les policiers font une découverte capitale, une découverte qui va lancer l'affaire Fourniret.
Là, on retrouve un cheveu, une structure particulière et atypique dans le type asiatique. C'est exactement les mêmes cheveux au niveau morphologique que les cheveux de référence de Ananya Tumpong.
Michel Fourniret est-il impliqué dans la mort de Mananya et dans celle de Céline Saison? L'hypothèse est plausible, il en a le profil. Né à Sedan, Michel Fourniret a tout juste 24 ans quand il commet ses premiers attouchements sur une mineure. À l'époque, il est ouvrier, marié et père d'un enfant. Ces attouchements lui valent une condamnation et un divorce. Fourniret s'installe alors en région parisienne, se remarie et a 3 enfants. Mais à 42 ans, Michel Fourniret recommence. Nouvelle agression sexuelle et nouvelle arrestation. Devant les policiers, il n'avoue pas une agression, mais 15. 15 agressions sexuelles commises entre 1977 et 1984.
Il reconnaît en fait des agressions sexuelles, des attentats à la pudeur, un certain nombre de violences commises donc au préjudice de jeunes filles. Hein. Il utilise une fiole qui dit être remplie d'acide ou de vitriol, qui s'avéra en fait être de l'eau. Il est menacé éventuellement avec un pistolet aussi.
Au psychiatre qui l'examine, Fourniret dévoile son obsession, la virginité. Une obsession qui remonterait à ses 21 ans, quand il a découvert que sa première épouse n'était plus vierge.
Il théorise, entre guillemets, ce qu'il fait en disant « voilà pourquoi je le fais ». À partir du moment où il se prévaut de sa théorie, il raconte tout.
En 1986, alors qu'il est en prison depuis 2 ans, Michel Fourniret rencontre Monique Olivier après avoir passé une petite annonce. Monique lui a répondu. Une relation épistolaire s'ensuit. En juin 87, Michel Fourniret est condamné à 7 ans de prison pour la série de viols et d'agressions sexuelles qu'il a reconnues. Mais Fourniret, qui a déjà fait de la préventive, est libéré à mi-peine. Il quitte Fleury-Mérogis dès octobre 1987, au bras de Monique Olivier. Le couple emménage dans un cabanon isolé à Floin, un petit village des Ardennes.
C'est un couple bizarre. On aurait dit comme un frère et une sœur. Ils étaient ensemble depuis pas longtemps pourtant. C'était pas le grand amour. On aurait l'impression qu'ils vivaient comme des vieux. Pas de communication pratiquement, pas de sourire, pas de blague, pas rien du tout. On a l'impression qu'ils vivaient pas.
Ils se marient pourtant et donnent naissance à un petit garçon. Le 3e fils de Monique Olivier et le 5e enfant de Michel Fourniret. En 1989, la famille quitte son cabanon pour s'installer dans un château. Un changement de vie qui attire l'attention de la police.
Quelqu'un qui achète un château en pleine nature, à 600 mètres de la frontière belge, c'est quelqu'un qui vient, comme on dit dans le jargon, se mettre au vert. Il fallait qu'on s'intéresse à Fourniret, savoir d'où cet argent provenait.
Fourniret a de l'argent, mais aussi des amis, qui ont des relations dans le milieu. En prison, il a partagé sa cellule avec un certain Jean-Pierre Elgouarche, un braqueur soupçonné d'entretenir des liens avec Action Directe. Les époux Fourniret cacheraient peut-être l'un des terroristes dans leur château. La justice ordonne une perquisition du domaine qui se solde par un simple redressement fiscal. Un an plus tard, la famille abandonne brusquement son château pour filer en Belgique, dans le village de Sarcustine. C'est ce passé chargé et encore trouble que les policiers belges et français découvrent lorsqu'ils ouvrent leur enquête sur l'enlèvement de Marie et les meurtres de Manania et Céline. Les deux services de police ne vont plus lâcher le couple. Durant des mois, Michel Fourniret et Monique Olivier sont régulièrement entendus.
On a décidé de les rencontrer le plus souvent possible, de les faire parler de tout et de n'importe quoi, partant du principe que quand on ment, plus on parle, on finit par se contredire.
Les mois passent et la pression s'accentue. Mais aucun des époux ne craque. Jusqu'au 22 juin 2004. Ce jour-là, Monique Olivier est convoquée une nouvelle fois au commissariat.
On lui laisse raconter ce qu'elle a envie de raconter, sans la brusquer, risquer qu'elle se referme. Et puis là, elle nous dénonce son mari comme ayant enlevé et tué Céline Saison et Manania Tumpank.
Monique Olivier a craqué. Elle a mis en cause son mari dans les deux meurtres, mais elle va aller beaucoup plus loin.
Et là, en une trentaine de minutes, elle va nous mettre en cause Fourniret dans 6 meurtres. Elle va nous parler d'Isabelle Laville.
Isabelle Laville, une adolescente de 17 ans qui a disparu 7 ans plus tôt, le 11 décembre 1987, à la sortie de son collège à Auxerre.
Et puis elle nous cite aussi Brichet.
Elisabeth Brichet, 12 ans, disparue en Belgique, à Namur, en 1989. Monique Olivier cite aussi Jeanne-Marie Desrameaux, une fille de 20 ans, disparue également en 89 à Charleville-Mézières. Elle parle aussi d'une femme de 30 ans qui a disparu dans les Yvelines, une certaine Farida Amiche. Monique Olivier ne s'arrête plus.
Elle va nous parler de Natacha Danet, à Nantes. Fabienne Leroy, à Montmelon. On s'est presque posé des questions de savoir si elle ne nous inventait pas des faits. Tellement c'était énorme.
Placé en garde à vue, Michel Fourniret confirme les accusations de son épouse. Il a bien tué les 8 jeunes femmes. Deux jours après ses aveux, Fourniret est remis aux autorités françaises pour rechercher deux corps qu'il dit avoir enterrés dans le parc de son château. Celui de Jeanne-Marie Desrameaux et celui d'Elisabeth Brichet, disparues toutes les deux 15 ans plus tôt. Sur place, Michel Fourniret balade les enquêteurs. Mais après 8 heures de fouilles,
on aperçoit la manche du vêtement que portait Elisabeth au moment de sa disparition et que tous les enquêteurs ont en tête. C'est un anorak de couleur parme.
Le corps d'Elisabeth est enterré à 3 mètres de profondeur. Dans sa poche, sa carte d'identité et son agenda d'écolière. Dans l'allée, les pelleteuses dégagent ensuite le corps de Jeanne-Marie Desrameaux, identifié grâce à la robe grise qu'elle portait le jour de sa disparition.
Là maintenant, l'enquête, elle vient de passer un cap. On a la preuve que les aveux sont exacts. Maintenant, on peut creuser partout, hein, à tout point de vue.
Aux policiers comme aux psychiatres, Fourniret raconte, en détail, la manière dont il a traqué ses victimes avant de les violer et de les tuer.
Il était tellement intarissable que c'était insoutenable. Fallait vraiment le vouloir pour rester dans la cellule avec lui. S'il expliquait quelque chose, ça aurait un certain intérêt. Mais il n'explique pas. Il vous fait voir ses crimes.
Le Les enquêteurs s'interrogent aussi sur le rôle exact de l'épouse du tueur en série, Monique Olivier. Elle était au courant de tout et elle aurait même participé à certains enlèvements.
Monique Olivier devient complice. Face aux enquêteurs, elle avoue finalement qu'elle a épaulé son mari au cours de plusieurs enlèvements, comme celui d'Isabelle Laville.
C'est elle qui enlève Isabelle Laville. Elle est seule dans la voiture. Elle s'arrête à hauteur d'Isabelle Laville et réussit à la faire monter dans la voiture. Puis, quelques dizaines de mètres plus loin, elle fait semblant de prendre Fourniret en stop. Il est là, il attend avec un bidon vide. Puis Fourniret entre et puis finit par tuer la gamine, quoi.
19 ans après sa disparition, les ossements d'Isabelle Laville sont retrouvés sur les indications du couple au fond d'un puits dans l'Yonne. En revanche, en l'absence de corps, la justice n'a que très peu d'éléments sur la mort de Farida Hamish. L'affaire n'est donc pas renvoyée avec les autres dossiers. L'instruction se clôt sur les meurtres de cette jeune fille. Le procès de Michel Fourniret et Monique Olivier s'ouvre en mars 2008 devant la cour d'assises de Charleville-Mézières. Tous les regards sont braqués sur le couple. C'est une Monique Olivier métamorphosée qui fait la première son entrée dans le box.
Monique Olivier apparaît maquillée, les cheveux coupés, coiffée, du mascara sur les yeux, un visage plus avenant, mais un visage de cire.
Michel Fourniret, lui, refuse de se laisser filmer. Comme il refuse de participer à son procès et même d'être défendu.
On a un accusé sur lequel on n'a aucune prise parce qu'il n'a rien à craindre. Il n'a rien à craindre parce qu'il sait que le pire va lui arriver.
Et il affiche sur le box un papier sur lequel il a écrit « sans huis clos, bouche cousue ».
Et ça, c'était son ultime chantage. Il voulait démontrer que c'était lui qui décidait et qu'il ne parlerait que quand il l'aurait décidé et que lorsqu'on serait passé, que lorsqu'on aurait accepté ses conditions.
La cour ne plie pas. Et Michel Fourniret consent finalement à parler avec un cynisme terrifiant.
Et lorsque je l'interpelle sur la préparation du meurtre d'Isabelle, est-ce qu'il avait repéré les lieux ou pas, il m'a répondu quelque chose d'horrible. Il a dit, vous savez, c'est un peu comme un braconnier qui part à la chasse. Il prend ses outils et il ne sait pas si le soir il ramènera un faisan ou un lapin.
Monique Olivier, son épouse, est toujours aussi glaçante.
Ce qui choque tout le monde, c'est que des jeunes filles vont monter sans méfiance dans la camionnette de Fourniret parce que madame est là, parce que Monique Olivier est là. Par sa présence rassurante, elle permet à Fourniret de les embarquer. Il y a une reconstitution qui a été projetée au procès de la toilette intime de la petite Elisabeth Brichet qui a ses règles, que va pratiquer Monique Olivier sur elle. C'est un truc terrible, elle va rejouer cette scène sur une poupée de chiffon qui est attachée les bras en croix sur un lit. Elle la recouvre d'un drap et puis elle descend à la cuisine et elle dit à Michel Fourniret, ça y est, elle est prête, elle lui livre.
Avant sa rencontre avec Monique Olivier, Fourniret avait violé, mais il n'avait jamais tué. Sans elle, serait-il passé à l'acte?
Il aurait tué sans elle, mais il aurait probablement tué plus tard, de manière beaucoup plus imparfaite, et il se serait fait prendre beaucoup plus tôt, comme c'est le cas à la fin, quand il agit sans elle. Il était dans la perversion, mais il n'était pas dans la perfection. Avec elle, il a atteint les deux. Et la perversion, et la perfection.
Après 2 mois d'audience, Monique Olivier est condamnée à perpétuité avec 28 ans de sûreté. Michel Fourniret est condamné à la plus lourde peine prévue par le code pénal, la réclusion perpétuelle incompressible. Aujourd'hui, les enquêteurs continuent de retracer le parcours criminel du couple Fourniret. Si certaines affaires conservent encore leur mystère, d'autres sont enfin en cours de résolution. Comme le crime de Farida Hamish, commis en 1988, avoué par Monique Olivier et reconnu par Michel Fourniret. Un crime longtemps resté une énigme. Patricia Touranchot, qui est Farida Hamish ?
Farida Hamish était la compagne de Jean-Pierre Elgouache, un codétenu de Michel Fourniret quand ils étaient ensemble en cellule à Fleury-Mérogis. Et en fait, Elgouache, le braqueur, avait pris un peu sous son aile, sous sa protection, Michel Fourniret, le pointeur.
Ce Jean-Pierre Elgouache, pendant sa détention, a eu vent qu'un trésor, une partie du magot du fameux gang des postiches, était dissimulé dans un cimetière. Il ne peut pas sortir tout de suite de prison. Il pense qu'il faut quand même pas trop laisser traîner cette histoire. Et il charge sa compagne d'entrer en contact avec Fourniret dans le but d'aller récupérer ce trésor.
Une nuit de mars 88, Farida Hamish et Michel Fourniret, accompagnés de Monique Olivier, sont partis dans ce cimetière du Val d'Oise pour déterrer le magot. Ils sont allés chez Elgouache et Farida. Fourniret a effectivement aménagé une cache au-dessus des WC pour planquer tout ça. En échange de quoi, Farida lui a remis, comme prévu, l'équivalent de 500 000 francs en lingots et en pièces d'or.
Le deal pourrait s'arrêter là, tout le monde y trouverait son compte, mais Michel Fourniret et Monique Olivier estiment que finalement, il y a sûrement une affaire bien plus juteuse à faire.
Et un mois plus tard, le 12 avril 88 exactement, Fourniret a tendu un piège à Farida. Il lui a demandé un service en urgence. Est-ce que tu peux m'aider à déménager des armes que j'ai cachées en forêt de Rambouillet ? Ils y vont avec la voiture de Farida, Monique Olivier suivant derrière avec la voiture des Fourniret. Arrivé dans les Yvelines, du côté de Clairefontaine, il demande à Farida de descendre et il l'achève en l'étranglant. Et il a abandonné son corps à la sortie d'un village en bas d'une pente. Il l'a enseveli dans une espèce de fossé. Ils sont retournés chez Elgouache et Farida. Ils ont volé l'intégralité du magot. Ils sont allés abandonner la voiture de Farida Hamish sur le parking de l'aéroport d'Orly pour faire croire, en fait, que Farida avait disparu avec un mec et avec l'argent.
Un an plus tard, en 1989, Jean-Pierre Elgouache sort de prison.
Il a un petit doute. Il se dit quand même, les derniers, a priori, à avoir vu Farida, c'est quand même les Fourniret. Et il débarque à l'improviste dans la maison des Fourniret, leur espèce de masure à Floin, dans les Ardennes. Elgouache dira sur procès-verbal, « Quand je les ai vus, c'était les Thénardier avec leurs gosses, c'était des pauvres, mais des vrais pauvres. » Enfin, les Fourniret lui ont fait le coup de la pauvreté, et ça a marché.
Au détour d'un interrogatoire sur ces liens possibles avec le groupe Action Directe, Jean-Pierre Elgouache apprend que les Fourniret viennent de s'acheter un château. À cet instant, il comprend qu'il s'est fait doubler.
Elgouache est comme un dingue. Il fonce dans les Ardennes, il trouve ce château du Sautou, il pénètre dans la propriété. À ce moment-là,
Fourniret comprend ce qui se passe. Elgouache tire un coup de feu. Fourniret se barre en voiture et ne réapparaîtra plus.
10 ans après la disparition de sa compagne, Jean-Pierre Elgouache dépose plainte contre les Fourniret. L'affaire est classée sans suite en quelques mois. Maître Corinne Herman, pourquoi cette plainte n'a-t-elle pas été prise au sérieux ?
Parce que le parquet a vérifié où habitait Michel Fourniret, puisqu'il était nommé. Michel Fourniret habitait en Belgique, ils ont considéré qu'il ne pouvait pas aller chercher en Belgique.
Alors Michel Fourniret et Monique Olivier ont pourtant avoué ce crime en 2004, hein, et ça n'a pas relancé l'enquête.
Ça a relancé l'enquête, mais elle a été très très lente, on l'a mise sur le bas-côté des autres affaires, et puis peut-être parce que c'était la femme d'un truand, on préférait ne pas la mélanger.
Il a eu le sentiment qu'on ne lui rendrait pas justice d'une certaine manière parce qu'il avait lui-même commis un certain nombre de faits qui l'avaient amené devant les tribunaux. Or, le meurtre d'une femme, qu'elle soit la femme d'un truand ou qu'elle soit la femme d'un honnête homme, c'est la même chose, c'est aussi terrible et ça justifie évidemment qu'il y ait une sanction pénale.
En 2009, l'assassinat de Farida Hamish est prescrit. Mais les avocats de Jean-Pierre Elgouache montent au créneau pour secouer la justice.
Elle considérait qu'il n'y avait pas eu d'acte d'instruction à l'époque et que ce dossier ne faisait pas partie de la série criminelle de Michel Fourniret. Mais en réalité, il en fait totalement partie. Il a même permis de financer ses activités criminelles et de financer finalement les autres crimes. Un exemple tout simple, il a acheté un château sur le terrain de ce château et il a enterré 2 corps. S'il a pu acheter ce château, c'est grâce au magot. Donc c'est même le crime qui a permis les autres crimes.
Un raisonnement que la Cour de cassation décide de suivre en 2011. Elle écarte la prescription. Le couple est renvoyé devant les assises. Michel Fourniret pour assassinat et recel de vol à main armée. Monique Olivier pour complicité d'assassinat et recel. Le procès doit avoir lieu en novembre 2018. Maître Vavasseur, vous êtes l'avocat commis d'office de Michel Fourniret dans le dossier Hamish. Pour vous, il y a bien prescription dans ce dossier.
Il a été sauvé des eaux parce qu'on a effectivement indiqué qu'il y avait une connexité avec le recel de l'or qu'il a pu récupérer au moment du meurtre de Farida Hamish. Effectivement, c'est une règle qui n'apparaît nulle part dans le code de procédure pénale, mais qui résulte d'une jurisprudence qui a été finalement, à mon sens, créée pour les besoins de la cause. Donc je conteste, malgré tout, l'effet de recel de vol, dans la mesure où je considère que M. Fourniret n'a aucune connaissance de l'origine de l'or qu'il a pu récupérer, et dans la mesure où, finalement, rien n'établit que cet or provienne des vols du gang des postiches.
Vous pensez vraiment que Michel Fourniret va s'exprimer ?
Je ne sais pas exactement comment il se comportera devant la cour d'assises, mais j'espère qu'il parlera. Même si à tout moment, je pense qu'un rebondissement est possible. Je rappelle que dans ce dossier Hamish, il a refusé de s'exprimer, essayant, si je puis m'exprimer ainsi, de monnayer sa parole contre des services.
Est-ce qu'il pourrait refuser de comparaître ?
Je pense qu'il a un certain plaisir intellectuel à se confronter à ce genre de choses, donc je pense qu'il sera là.
Comment est-ce qu'on défend quelqu'un qui, de toute façon, va passer sa vie en prison ?
C'est vrai que la peine n'aura pas une énorme importance si ce n'est d'un point de vue moral. Donc on ne veut pas non plus prendre le maximum parce que c'est M. Fourniret. On va avoir une juste sanction d'un dossier isolé.
Richard Delgenès, votre cliente, va être jugée. Comment appréhende-t-elle ce procès ?
Elle a déjà reconnu l'intégralité des faits dans l'affaire de décès de Mme Farida Hamish. Il est peu probable qu'elle revienne sur ce qu'elle a dit et ce qu'elle a reconnu. Par contre, plus intimement, Monique Olivier a peur de Michel Fourniret. Il y a une appréhension de se retrouver tout près de lui dans le box, une appréhension de le voir, de le retrouver. Et en plus, c'est un pervers qui, je pense, aime bien s'amuser avec les uns et les autres. Et s'il voit qu'avec Monique Olivier, il peut s'amuser, il n'hésitera pas à le faire à un moment donné. Donc voilà, elle le sait.
Le corps de Farida Hamish n'a toujours pas été retrouvé. Votre cliente sait où il se trouve.
Monique Olivier, lorsqu'elle a fait ses aveux, a donné tout ce qu'elle avait comme information. Si elle ne les a pas donnés, c'est parce qu'elle n'en a pas de souvenir ou que les lieux ont changé.
Maître Seban, qu'attend Jean-Pierre Elgouarche de ce procès ?
Que Michel Fourniret dise le lieu où il a enterré Farida, que ce secret ne soit pas emporté par Michel Fourniret et Monique Olivier, qu'on puisse retrouver son corps, qu'on puisse l'enterrer dignement.
Michel Fourniret a été condamné à la peine maximale. Ce nouveau procès ne changera en rien sa situation ?
Pour lui, sur sa situation de détention, très certainement. Pour Monique Olivier, c'est différent, puisqu'elle peut être libérée. Donc, il y a un enjeu peut-être plus fort pour elle que pour lui. Et puis, il n'y a pas que l'enjeu de la peine. Il y a l'enjeu de dire une vérité judiciaire. Les familles attendent des réponses.
Deux autres affaires non résolues pourrait connaître un dénouement judiciaire. Le meurtre de Johanna Parrish en mai 1990 et la disparition en juillet 1988 de Marie-Angèle Domès, une jeune femme de 19 ans qui vivait dans un foyer à Auxerre.
Véronique Domès,
pourquoi Marie-Angèle a-t-elle été placée en foyer ?
Parce que ma mère a eu un accident. Ma sœur était toute petite dans un landau. Ma mère était sur une nationale et elle s'est fait percuter par la moto. Donc le motard est mort. Ma mère s'est retrouvée à l'hôpital et ma sœur à l'hôpital aussi. Donc les services sociaux ont repris Marie-Angèle. Et donc ma mère n'a pas été déchue de ses droits puisqu'elle avait toujours un droit de visite. Mais sa fille lui était retirée.
Quand est-ce que vous avez vu votre sœur pour la dernière fois ?
Décembre 87, dernier Noël qu'on a fait au foyer. On a été danser au foyer avec elle et ses copines.
Comment est-ce que vous avez appris sa disparition ?
Par les journaux.
Claude Demès, dans quelles circonstances Marie-Angèle a-t-elle disparu ?
Je suis descendu au foyer, j'ai eu un entretien avec une personne de l'encadrement qui était là et qui m'a simplement dit qu'elle était partie, quoi. Elle était sortie du foyer à une heure normale, et qu'elle n'avait pas rejoint son train puisqu'il n'y avait pas de traces à la gare ni rien du tout. Voilà, c'est tout.
Quelles sont selon vous les hypothèses qui pourraient expliquer la disparition de votre fille ?
Tout d'abord, j'ai pensé que elle était peut-être partie en fugue avec quelqu'un. À certains moments, j'ai pensé qu'elle pouvait avoir été enlevée. Mais je me demandais un peu aussi par qui, comment, pourquoi, et comment on avait pu la repérer.
Est-ce que vous avez déposé plainte chez les gendarmes ?
Non, j'ai pas déposé plainte parce que Marie-Angèle était pupille de l'État à l'époque. J'ai pensé à tort, d'ailleurs, que moi... son père, je n'avais pas le droit d'intervenir en son sujet, que la priorité revenait aux représentants de la LAS.
Maître Seban, la disparition de Marie-Angèle Domessé a été signalée à la DAS. Que s'est-il passé ?
À l'époque, malheureusement, la justice de Lyon, tout comme les services d'enquête, ne se passe complètement à côté. La disparition de Marie-Angèle Domèche, il y a une enquête extrêmement limitée.
Un non-lieu est délivré en février 89, 8 mois seulement après la disparition de Marie-Angèle. Quelles sont les conclusions de ce non-lieu ?
Au fond, qu'on ne saura pas qu'elle est partie, qu'elle a sûrement vécu sa vie, et puis qu'on n'a pas d'éléments qui donnent un caractère criminel à l'affaire.
L'histoire, pour nous, était classée comme on ne saurait jamais ce qu'était devenue Marie-Angèle.
À l'époque, dans Lyon, une autre affaire piétine. Celle du meurtre d'une jeune Anglaise de 20 ans, Johanna Parrish. Étudiante en littérature, Johanna s'était installée à Auxerre en 1989. Son corps est retrouvé dans les eaux de Lyon en mai 1990. Corinne Herman, que donne l'enquête sur la mort de cette jeune femme ?
Au départ, on va chercher. Effectivement, on va chercher de façon plus détaillée que pour Marie-Angèle Domèche. C'est vrai qu'on va faire quelques investigations, puis c'est une famille anglaise, on lui doit une réponse. Il y a évidemment des pressions diplomatiques, donc on va chercher un petit peu plus longuement. Mais finalement, très vite, on va abandonner le dossier. En 92-93, on les laisse ouverts, mais on abandonne les recherches, on abandonne les investigations. Donc très longtemps, il ne se passera rien.
Les enquêtes sur la mort de Johanna Parrish et la disparition de Marie-Angèle Domèche restent au point mort. Jusqu'à ce que Monique Olivier se décide à parler en 2005.
Il faut remettre les aveux des affaires Parrish et Domèche dans la chronologie des désaveux de Monique Olivier. Michel Fourniret est en détention depuis plusieurs mois pour une tentative de kidnapping d'une jeune fille en Belgique. Et les enquêteurs commencent à penser que Michel Fourniret dissimule autre chose qu'une tentative de kidnapping. Et ils se disent que le levier peut être Monique Olivier. Donc elle va être auditionnée plusieurs fois et elle va passer aux aveux dans deux affaires particulières qui sont Parrish et Domèche.
Que dit-elle au sujet de ces deux jeunes femmes? Qu'est-ce qu'elle raconte, Monique Olivier?
On peut considérer que les dépositions de Monique Olivier sur les affaires Parrish et Domèche sont sensiblement identique aux autres affaires des autres jeunes filles. Est-ce que ce sont des éléments suffisamment circonstanciés pour être certain que les aveux sont des vrais aveux? Il faudrait demander au juge d'instruction.
Malgré ces accusations, Michel Fourniret nie farouchement. Pourtant, en juin 2007, alors que son procès devant la cour d'assises se profile, Fourniret adresse un étrange courrier au magistrat.
Il demande à être jugé pour les dossiers Johanna Parrish, Marie-Angèle Domèche, en même temps que les autres crimes. Il dit qu'il est l'auteur des faits, à sa façon, avec ses mots, mais il dit qu'il est l'auteur des faits. Il donne juste une précision de plus, il indique qu'il se tient à la disposition des enquêteurs pour les aider à aller très vite dans ces enquêtes pour qu'elles puissent être jugées avec les autres.
Pourquoi cette forme d'aveu, tout à coup ?
En 2007, il y a une pression autour de ce procès qui est terrible. Il se sent un peu plus vieux, il se sent dépassé un peu par les événements quand même, et il se dit qu'il a peur de mourir et que peut-être les familles n'auraient pas de réponse. Est-ce qu'il a une once d'humanité? Je ne le sais pas, je ne saurais pas me prononcer là-dessus. Mais en tous les cas, c'est ce qu'il nous dit. Il ne veut pas, s'il meurt, laisser cet héritage à ses enfants. Il veut reconnaître ces faits-là.
Mais l'instruction est terminée et le procès est audiencé. La cour d'assises de Charleville-Mézières refuse de rentrer dans le jeu de Michel Fourniret. Il faut attendre le 11 mars 2008 pour que le couple Fourniret soit mis en examen pour le meurtre de Johanna Parrish et la disparition de Marie-Angèle Domèche. Deux dossiers fragiles, d'autant que Monique Olivier est revenue sur ses déclarations et nie désormais toute implication de son mari dans ces deux crimes.
Elle dit que ces deux faits-là, qu'elle a pu avouer, elle revient dessus, parce qu'elle a été malmenée. Et qu'on lui a dit, ces affaires-là, voilà, il y a deux affaires là, qu'on n'a pas élucidées, c'est Michel Fourniret. Voilà comment les choses sont présentées. Elle dit non. Elle dit, mais si, allez, on ne va pas tourner là-dessus, il faut les reconnaître, etc. Elle a été secouée et physiquement. Donc là, après, elle dit, bah oui, c'est ça, et elle dit qu'on lui donnait les questions-réponses.
Ce qu'elle dit, c'est qu'elle a avoué les crimes qu'ils avaient bien commis, et qu'on l'a forcé
sur
à reconnaître ces deux-là.
Monique Olivier dit effectivement qu'elle a reconnu des faits, des meurtres, et que sur ces deux-là, ils lui ont été amenés. Voilà.
Faute de preuves, en septembre 2011, la justice prononce un non-lieu dans ces deux affaires.
Quand on nous a annoncé le non-lieu, ça s'est passé devant un juge d'instruction, qui d'abord nous a dit, voilà, dans le dossier, il n'y a strictement rien. On a ouvert un carton devant nous, il n'y avait rien. Quand je suis sorti là-dedans, j'étais plutôt désappointé. Je me demandais bien comment on allait faire si on voulait pouvoir faire quelque chose.
On parlait de criminels qui venaient d'être condamnés pour cet assassinat et ça n'est pas normal de rendre un non-lieu sur ce type de tueur en série. C'est incroyable.
On oublie que le couple est évidemment dans Lyon à cette époque-là parce qu'il est en train de débarrasser un héritage de la famille de Michel Fourniret. On oublie que ses premiers meurtres à la sortie de prison, il les commet dans Lyon. On oublie qu'il y a des traces sur le corps de Johanna Parrish qui font exactement penser aux traces qu'on a retrouvées sur d'autres meurtres qu'a commis Michel Fourniret. On oublie que Marie-Angèle Domèche se rend régulièrement à Saint-Cyr-les-Colons où habite la mère de Michel Fourniret, où est la maison de Michel Fourniret. On oublie tout.
En juin 2012, les avocats des familles obtiennent finalement gain de cause. Les deux dossiers sont repris depuis le début. Les gendarmes de la section de recherche de Dijon vérifient à nouveau l'emploi du temps de Fourniret. Ils recoupent toutes les auditions, un travail considérable qui finit par payer. En février 2018, Michel Fourniret parle enfin dans les dossiers Marie-Angèle Domès et Johanna Parrish.
Maître Seban, pourquoi Fourniret se décide-t-il subitement à parler ?
Parce que, il le dit, il le redit, si les enquêteurs ne travaillent pas, je ne vais quand même pas leur donner des affaires sur lesquelles ils n'ont pas travaillé. Donc comme on n'avait pas travaillé jusque-là, il n'a pas avoué. Donc on a travaillé. On arrive avec des résultats tangibles, des éléments précis qu'il met en cause et sur son emploi du temps. Il avoue.
Corinne Herman, que dit Michel Fourniret à la juge d'instruction ?
Il dit simplement que si ces femmes n'avaient pas croisé sa route, elle serait vivante aujourd'hui. Pour le reste, l'enquête se poursuit, donc c'est difficile de donner d'autres détails, mais il est très clair sur ce point-là.
C'est comme ça qu'il avoue ?
C'est de cette façon qu'il avoue.
Si elle ne m'avait pas rencontré, elle serait toujours vivante ?
Si elle ne m'avait pas croisé. Si elle n'avait pas croisé ma route, elle serait toujours vivante.
Est-ce qu'il implique Monique Olivier dans ses aveux ?
D'une certaine façon.
Quel crédit peut-on apporter aux aveux de Michel Fourniret ?
Un crédit total, parce que Michel Fourniret n'a jamais avoué des faits qu'il n'a pas commis. Lorsqu'il a avoué des faits, ils ont toujours été vérifiés. Qu'après, il puisse jouer sur des détails, il l'a toujours fait, il peut le faire, mais ses aveux sont pour moi certains.
Est-ce qu'il y a des éléments dans le dossier qui permettent de crédibiliser ces déclarations ?
Bien sûr qu'il y a des éléments dans le dossier. Je peux affirmer que les aveux sont corroborés par le dossier et qu'il était confronté à un dossier qui est parfaitement bien, j'ai envie de dire, ficelé.
En juin 2018, nouveau coup de théâtre. À la suite des aveux de Fourniret, Monique Olivier est entendue par la juge d'instruction. Sans donner les noms des victimes, elle incrimine à nouveau Fourniret dans deux crimes qui pourraient bien être les meurtres de Johanna et de Marie-Angèle.
Pour nous, ça ne fait que nous conforter dans ce qui s'est passé, quoi. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a plus d'erreur.
Monsieur Domès, vous pensez qu'on peut croire les aveux de Michel Fourniret ?
Je crois quand même qu'on approche du but. Je crois que Fourniret essaiera. Parce qu'on connaît l'oiseau. Il aime à faire souffrir les gens, il aime à montrer qu'il est le plus fort, il aime à montrer qu'il est le meneur de jeu. Mais il faudra qu'il se mette bien une chose en tête. Il ne sera pas meneur de jeu encore longtemps. Il sera vaincu.
Et en même temps, c'est compliqué. Le corps de votre fille n'a jamais été retrouvé. Est-ce que vous espérez qu'un jour, Michel Fourniret dise « Tiens, elle est là ».
Est-ce qu'il aura un jour, si j'ose dire, passez-moi l'expression entre guillemets, la bonté de bien vouloir dire l'endroit où il l'a déposé, où il l'a enterré, où il ne l'a pas enterré, on n'en sait rien. Voilà. Jusqu'à présent, on n'a rien trouvé. Les fouilles ont eu lieu, négatif. Hein. Voilà, jusqu'alors.
Aujourd'hui, Monsieur Domès, qu'est-ce que vous attendez de la justice ?
Pour moi, je serais, disons, tout à fait heureux de voir Fourniret au banc des accusés, le voir. Hein, le voir, là. On se croit fort quand on attaque une gamine. Hein, et puis, qu'on la massacre. C'est pas un être humain, tout intelligent qu'il soit. Faire les choses comme ça. Et je dis pas ça parce que c'est ma fille. Je dis ça au nom de toutes les victimes, si on me le permet.
Aujourd'hui, je suis un peu plus confiante que je l'étais. je suis prête à aller jusqu'au bout du procès, qu'on sache la vérité pour Marie, quoi. Pour nous, pour Marie, pour sa mère, pour la famille.
L'ombre du tueur en série plane depuis des années sur la disparition d'une autre fillette, Estelle Mouzin. Estelle a disparu en région parisienne en rentrant de l'école le 9 janvier 2003, moins de 6 mois avant l'arrestation de Michel Fourniret. De nombreuses pistes ont été envisagées, parmi elles, celle de l'ogre des Ardennes.
Chez Fourniret, il y a quand même 57 cassettes de la télé belge, dont un reportage très complet sur la disparition d'Estelle Mouzin. Donc ça intrigue beaucoup les enquêteurs de la PJ de Versailles. Qu'est-ce qu'il faut, lui, le criminel de petite fille, à enregistrer une émission sur Estelle Mouzin? Et puis, il a le profil.
En 2007, lorsque Fourniret a écrit à la justice pour être entendu sur les affaires Paris chez Domès, il a également déclaré avoir des choses à dire sur Estelle Mouzin.
Il sous-entend qu'il y est pour quelque chose dans cette disparition, mais la justice à l'époque n'accepte pas de rentrer dans ce jeu et le dossier Estelle Mouzin reste à part.
En effet, plusieurs éléments semblent mettre Fourniret hors de cause. Malgré plusieurs expertises génétiques, aucune trace ADN d'Estelle Mouzin n'a été retrouvée dans la fourgonnette du couple. Et surtout, le jour de l'enlèvement, Michel Fourniret avait un alibi.
Michel Fourniret a expliqué que le 9 janvier 2003, il avait passé un appel à 20h depuis chez lui à son fils. Donc, chez lui, c'était en Belgique, à Sarcustine, donc à 267 km de Guermantes. Donc, décemment, s'il appelle à 20h, il ne peut pas être à 18h à Guermantes.
Un alibi confirmé par Monique Olivier. Les zones d'ombre sont trop nombreuses pour la justice. En octobre 2013, Michel Fourniret est mis hors de cause. Mais en 2015, nouveau rebondissement. Monique Olivier aurait fait des confidences à une co-détenue. Elle lui aurait révélé avoir fourni un alibi à son mari pour le jour de l'enlèvement d'Estelle Mouzin.
Monique Olivier a été entendue suite aux propos tenus par la co-détenue et a contesté toute confidence donnée à quelqu'un. Voilà, enfin,
pour elle, c'est un mensonge.
C'est un mensonge, bien sûr.
Et elle n'a rien à voir avec l'affaire Estelle Mouzin et Michel Fourniret non plus.
Bah, Michel Fourniret, il dit ce qu'il veut dire, Michel Fourniret. Mais ma cliente, en tout cas, conteste toute implication dans l'affaire Mouzin, de près ou de loin, et conteste avoir donné un alibi à Michel Fourniret.
En mars 2018, Fourniret se replace au centre de l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin. Durant l'instruction sur l'affaire Domès, le tueur en série aurait fait des aveux en creux.
Corinne Herman, c'est vous qui avez employé cette expression « des aveux en creux ». Qu'est-ce que ça signifie ?
C'est-à-dire qu'il ne nie pas les faits. Quand il est confronté à ces faits, alors que pendant des années, il les a niés avec virulence, il se mettait en colère à chaque fois qu'on reprenait ou qu'on lui parlait du dossier d'Estelle Mouzin, là, il ne nie plus.
Donc, il ne nie pas avoir tué Estelle Mouzin, mais il n'avoue pas avoir tué Estelle Mouzin. Ça, c'est des aveux en creux.
C'est une forme d'aveu en creux, dans la mesure où il a écrit ce courrier en 2007, où il reconnaît, où il avoue les faits concernant Estelle Mouzin. Et lorsqu'il est confronté à cette lettre, il ne nie pas. Donc, il maintient ses aveux tels qu'il les a écrits sur cette lettre.
Est-ce que des aveux en creux, ça suffit ?
Ça suffit en tout cas pour investiguer et pour aller chercher plus loin.
Mais ça ne constitue pas de vrais aveux.
Pour moi, ça constitue des aveux.
Et pour la justice ?
C'est son problème.
Michel Fourniret aurait donc, selon ses propres aveux, tué au moins 10 jeunes femmes entre 1987 et 2003. Mais Fourniret a-t-il livré tous ses secrets ?
Non, c'est certain, on ne sait pas tout des crimes de Michel Fourniret. Combien il y a de crimes ? Je ne sais pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a trouvé de nombreuses empreintes génétiques dans son fourgon, sur des scellés, et ces empreintes génétiques ne sont toujours pas identifiées. Peut-être que parmi ces empreintes, on a les traces de victimes.
Pendant 10 ans, au cours des années 90, Fourniret ne fait plus parler de lui. Qu'est-ce que vous en pensez?
Lui nous dit qu'il commet au moins 2 crimes par an. Donc on pourrait avoir un nombre important de victimes pour ces 10 ans. Une 20aine, peut-être plus. Donc peut-être moins, je ne sais pas. Personne ne peut croire qu'il n'a pas commis de faits entre 90 et 2000.
Monique Olivier pourra déposer une première demande de libération conditionnelle en 2032. Elle aura alors 84 ans. Quant à Michel Fourniret, il est l'un des rares détenus en France condamnés à la perpétuité incompressible. Sauf raison médicale extrême, il finira ses jours en prison. Reste à savoir si d'ici là, il aura avoué d'autres crimes.